peu comment les choses se sont passées dans ma vie. Alors, j'ai l'avantage d'être médecin et aussi un désavantage d'avoir de subir encore une sérieuse maladie, on va dire ça comme ça, poliment, qui m'ont déclaré guéri, mais j'en porte de grosses séquelles. Je ne peux pas me permettre d'être désavantagé. Siri n'est pas très sage. Alors, mon propos, c'est que je me souviens, c'était le 16 mars 2017. Je me suis aperçu que j'avais une petite boule dans le cou, donc ça n'a pas traîné. Alors, par rapport à vous, j'ai l'avantage d'être médecin, donc avoir plein de portes ouvertes, donc ça a été beaucoup plus vite pour organiser toute ma prise en charge, qui a abouti à un cancer. Et donc, j'ai subi tout un parcours que vous connaissez peut-être. Et c'était compliqué, d'autant plus que j'ai marié un de mes fils entre deux cures de chimiothérapie. Donc, ça n'a pas été très simple à gérer. Et malgré qu'on m'ait dit que j'avais un bon pronostic, ça allait guérir, la chimiothérapie, c'est pas terrible quand même. Alors, je vais séparer mon topo en deux. J'ai combien de temps, Christophe?
Oh là, une demi-heure?
Ouais.
Voire,
Alors,
oui.
voilà. Au décours de la fin de ma chimiothérapie, où j'étais vraiment pas bien du tout, puisque je voulais plus y aller, c'était l'infirmière, l'ambulancière qui me mettait dans sa voiture, qui venait me frapper à la maison, qui me venait de dire, allez, mon petit docteur, il faut aller à la chimiothérapie, mais dès que j'arrivais, je vomissais, etc. Enfin, c'était quand même, les dernières séances ont été vraiment très pénibles. Et d'autant plus qu'il y a eu des erreurs diagnostiques, des erreurs thérapeutiques que j'ai pu repérer, que j'ai pu anticiper, mais quand on m'a dit qu'il fallait faire que je fasse 4 mois de plus de chimiothérapie, j'ai pas vécu très bien les choses. Et puis ça a impacté un petit peu la famille aussi, ça a eu un impact sur la famille. Et au décours de tout ça, bon, je m'en suis pas mal sorti, j'ai. À la demande d'une association, j'ai fait un film que j'ai pas encore récupéré, mais que je vais bientôt récupérer. C'était en 2018 et je l'avais intitulé Le temps est ma maladie. Et en fin de compte, le cinéaste a dit Tiens bon, ça vaut le coup. Tiens bon, ça vaut le coup, c'est un de mes amis qui avait un cancer, un de mes amis médecins qui avait un cancer de la gorge et qui a vraiment vécu des choses encore plus terribles que les miennes et qui m'a vraiment bien soutenu dans tout mon parcours. Et au décours de ça, j'ai écrit donc Le temps et la maladie. Alors pour ceux qui veulent, c'est un petit peu long, je vais faire un résumé de tout ça. Puis dans une deuxième partie, je vais vous dire que. Comment je vois ça un petit peu avec un petit peu de recul? Et ce recul, bah, je me suis un petit peu inspiré du sermon d'un de mes cousins qui est évêque à Quimper, que j'ai vu dimanche au cours d'une réunion, une grande réunion de famille. Et je vous dirai un petit peu comment j'ai vécu et comment j'ai retiré de son sermon quelques pensées qui peuvent nous aider. Alors, ce qui est terrible dans la maladie, c'est qu'on attend toujours. Il y a un problème, c'est l'attente. L'attente, c'est des rendez-vous, l'attente des résultats, l'attente des modifications de traitement, et ça, c'est vraiment très pénible. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la soumission au temps. On est soumis au temps. Et on est régi par tous les événements. Et en gros, on est rythmé, on est à la merci des médecins et des soignants. C'est eux qui vont rythmer notre vie. Et ça va avoir un impact sur notre vie familiale, la vie de couple et la vie familiale, parce qu'on est toujours en attente. Et ça, c'est compliqué, ça. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais attendre les résultats des examens, attendre les résultats de chimiothérapie, attendre la prochaine cure de chimiothérapie qu'on le redoute de plus en plus parce que. On vous met 4 mois de plus de chimiothérapie, on n'aime pas trop les dernières. Et ça, c'est ça qui m'a le plus pesé, hein, cette attente. Attendre quand tu arrives à l'hôpital, on nous fait attendre dans la consultation, l'hôpital de jour, puis le passage de l'infirmière, et puis il y a du retard, et puis ça n'avance pas, et on aimerait bien, et on oublie de prévenir l'ambulancière. Et tout ça, c'est le temps. La notion du temps est très importante dans la maladie. Et puis en finir par dire, bon voilà, le temps perdu, tout ce temps de cette maladie, ça a duré quand même pas loin d'un an, tout ce temps perdu, est-ce que je vais le rattraper? Eh bien non, on ne va pas le rattraper. Voilà, ça c'est la première partie. Bon, je ne le détaille pas, mais si certains veulent le texte, je pourrais leur donner. Et puis, il y a un autre aspect qui est celui de l'espace. Alors, j'ai repris un petit peu des thèmes qu'avait le pape François, avait repris sur l'espace-temps. Et quand on est malade, l'espace se rétrécit. J'avais plus le droit de voyer les jeunes enfants, j'avais plus le droit de contacter les gens qui étaient malades, j'avais plus le droit de contacter la foule, donc j'avais plus de chorale, plus de chorale. J'allais plus à la messe parce que il y avait des risques à ce moment-là. Et donc, je me mettais, quand j'allais à la messe du lundi soir, je me mettais tout au fond pour pas avoir de problème. Sauf que la première fois que je suis allé à la messe un lundi soir, il y avait la messe des jeunes.
Ah oui.
Et donc, on s'isole, notre espace se rétrécit. Et quand ça se rétrécit, c'est l'isolement. Et l'isolement s'apaise. L'isolement, il est familial, il est amical, il est professionnel. Tout se rétrécit, le monde se rétrécit. Et c'est vraiment ce que j'ai appelé mon exil. Mais cet exil, j'ai essayé de le faire bonifier en relisant des textes philosophiques, des textes religieux, la Bible, l'Évangile. J'ai découvert des émissions de radio, de télévision qui m'ont enrichi. J'ai redécouvert la prière, car les temps d'insomnie, quand on est malade, on devient insomniaque, et surtout avec la chimiothérapie, ça vous rend insomniaque parfois. Et donc, tous ces moments-là, ce sont des moments de silence et de paix. Et donc, ça permet de bien réfléchir un petit peu à tout cela. Alors, j'avais abordé un autre thème du temps. C'est la fidélité et la confiance. La fidélité, foi. Mais ma fidélité en quoi? Alors, c'est la confiance au médecin référent, à l'équipe infirmière, à l'équipe soignante, même s'il y a eu des erreurs que j'ai pu rattraper, hein, des erreurs de traitement, hein, les pauvres infirmières qui couraient après. Parce que c'est à Caen où j'allais, il faisait 150 cures de chimiothérapie par jour. Donc c'était vraiment un peu l'usine, donc c'était un petit peu compliqué. Et puis c'est là où est intervenu mon ami qui me dit, tiens, vraiment, vraiment, à la fin, j'en avais vraiment marre. Hein. Je ne sais plus à qui j'avais confiance. Et est-ce que j'avais confiance au médecin parce que je commence à avoir des signes neurologiques, je ne sentais plus mes pieds, je ne sentais plus mes mains. À qui ai-je confiance? Et puis le deuxième, vous pourrez voir, vous avez développé ce problème de fidélité aussi à sa famille, à son épouse, qui m'ont bien grandement aidé, et à tous mes amis qui m'ont bien grandement aidé. J'ai beaucoup écrit et donc ils m'ont beaucoup envoyé, et ma famille aussi m'a beaucoup envoyé de mots pour m'aider. Et puis le deuxième point qui fait partie du temps, c'est l'espérance. Alors on a un peu oublié cette vertu. Autrefois, on récitait l'acte d'espérance. Alors je vais vous le redire
Ah,
après.
très joli, bien, oui.
Et parfois, il y a une sensation un peu bizarre dans la maladie, dans ces maladies-là, c'est qu'on n'est pas toujours conscient de sa maladie. On dit, bon, ben, Inch'Allah, il va, on verra bien, c'est ce qu'on appelle la nosognosie, c'est-à-dire plus avoir conscience de son état. Et on a envie de voir l'avenir du bon côté. C'est à la suite de cette réflexion que j'avais demandé au Père Francis de recevoir le sacrement des malades, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Et ça a étonné un petit peu tout le monde, parce que en disant, mais on t'a dit que c'était de bons pronostics, tu vas les guérir, tout ça, sauf que la chimiothérapie, c'est quand même pas rigolo. Et j'ai reçu avec la présence de tous les diacres et de tous mes quelques mes amis de Cherbourg les sacrements à la maison. Le sacrement des malades que j'avais préparé avec le Père Francis. Et une autre chose qui paraît bizarre, c'est que on vous déclare guéri, mais on ne vous dit pas guéri. On vous dit la survie de telle maladie, c'est de 1 an, 5 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais qu'on n'est jamais totalement guéri, il n'y a que toujours la possibilité de rechute. Donc c'est toujours un peu chaotique et ce chemin est souvent semé d'embûches. Et puis on a les cicatrices. Cicatrices à cause d'une erreur, une chimiothérapie de trop. Je ne sens plus mes doigts, mes pieds. Et ça me rappelle en permanence que j'ai été malade, etc., avec toutes les souffrances qui reviennent et les cauchemars que ça peut susciter. Donc voilà un petit peu mon parcours. Alors, je me disais, mais pourquoi cette cochonnerie alors que j'ai le sentiment d'avoir. Nous avons 4 enfants avec mon épouse et on les a élevés au mieux, ils sont bien dans leur vie. Mais pourquoi ce chemin? Dieu nous aime. Est-ce que Dieu nous aime? Notre vie a été cabossée, malgré nos prières, malgré une ligne de vie, je ne vais pas dire parfaite, mais presque parfaite. Est-ce que nos prières ont toujours été exaucées? On a pris des coups, on a eu des soucis de famille, on a eu des gros soucis d'enfants. Se sont résolus, des maladies qui sont venues aussi atteindre notre famille. Notre vie n'a pas été toujours une partie de plaisir, comme disaient mes amis, on était bien cabossés. Et la maladie nous a rattrapés avec son lot de souffrances, de douleurs, de doutes, de déprimes. Et alors, on avait tout un tas de rendez-vous. On avait des rendez-vous pour les examens, comme je vous disais tout à l'heure, avec les traitements, les chimiothérapies, les précautions qu'il faut les prendre, les isolements. Donc, je n'ai pas vu mes enfants pendant un petit bout de temps, surtout à la fin, pour éviter les risques infectieux. Et comme je disais au Père Francis, j'avais oublié un truc, j'avais oublié de prendre rendez-vous avec Dieu. On était tellement embarqués dans cette machinerie de santé qu'on avait fini par oublier Dieu. Est-ce que Dieu écoute nos prières? C'est un sale moment quand même. Hein. Peut-être qu'on ne sait pas lui parler. Peut-être qu'on n'a pas de bon logiciel pour s'adresser à lui. On n'a peut-être pas la bonne adresse. Que notre foi ne vaut peut-être pas la peine d'être écoutée. Et on peut être déçu et notre foi peut s'étioler avec cette impression que Dieu nous écoute pas, n'exauce pas nos prières. Peut-être que Dieu nous fait payer le tribut de nos écarts, de nos péchés. J'ai retrouvé un livre de Bruckner qui s'appelait La tyrannie de la pénitence. Est-ce que toutes ces souffrances et toutes ces maladies ne sont pas pour nous faire payer, je dirais, pour cette simple, pour nous faire payer ces écarts? On ressasse notre culpabilité sur cette terre où nous n'avons pas demandé de venir. En fin de compte, à toutes ces questions, c'est Jésus qui nous donne la réponse. Alors je vais vous lire Saint-Luc chapitre 22. C'est au mont des Oliviers, Gethsémani. Il sortit alors et se rendit comme de coutume au mont des Oliviers. Et les disciples ainsi le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à distance d'un jet de pierre environ, et fléchissant les genoux, il priait. « Père, disait-il, si tu le veux, éloigne-moi de moi cette coupe. Cependant, que ne ce soit pas, excusez-moi, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. » C'est là l'essentiel. Que ne soit pas ma volonté qui soit faite, mais la tienne. C'est Jésus qui parle. Alors lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. En proie à la détresse, il priait de façon plus instante, et sa sueur devint comme des grosses gouttes de sang qui comblaient la tête. En gros, c'est lui qui nous donne la solution du problème. Ce n'est pas notre volonté, mais la sienne, c'est la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dans le Notre Père qu'on récite tous les jours, que ta volonté soit faite, et je mets entre parenthèses, et pas la mienne. Il y a eu une époque de ma vie où j'ai eu des gros soucis. J'étais jeune. Et une dame chez qui j'habitais m'a écrit une lettre. J'ai retrouvé, je suis en train de relire toutes mes lettres, que j'ai, mes centaines de lettres que j'ai reçues depuis ma plus tendre jeunesse. Dieu nous aime tellement qu'il nous associe à son sacrifice sur la croix et à sa rédemption. Elle est gentille, la petite dame, là, mais c'est pas très sympa ce qu'elle m'écrit. Et en fin de compte, c'est, je reprends ça maintenant, c'est quand même d'une grande profondeur et d'une grande exactitude. Alors pourquoi nous sommes malades, pourquoi nous sommes dans la souffrance, pourquoi... J'ai la conviction, c'est pas moi qui ai écrit ça, mais j'ai la conviction que la création n'est pas terminée. On a fait d'énormes progrès, et le père Christophe nous relisait un texte du centre palliatif de Toulouse, je crois. Et on a fait d'énormes progrès pour apaiser la souffrance physique, psychique, psychologique. Je crois que c'est la plus terrible, la psychique. Hein. L'isolement, c'est vraiment terrible. Hein. C'est vraiment c'est ce dont j'ai le plus souffert. Et donc, Jésus est le nouvel Adam. Et donc, la création est en train de faire, on progresse, on se rapproche de Dieu de plus en plus. Est-ce que, notre question, c'est est-ce que l'on écoute bien tous les messages de Dieu? Est-ce qu'on perçoit bien ne faire que dans le silence? Alors, je vais vous raconter une histoire parce que j'aime bien. Alors, comme a rappelé Christophe, je suis à cheval sur la Bretagne, je suis près de Vannes. Et donc, je connaissais un petit peu mes centaines de vannes. Et peut-être que vous la connaissez, cette histoire, mais elle est assez caractéristique sur l'écoute de Dieu. C'est l'histoire d'un prêtre qui est dans une zone inondable et qui voit son église commencer à s'inonder au cours de grosses tempêtes. Et les pompiers viennent le voir en disant « Monsieur le curé, venir avec nous là, vous allez vous noyer, etc. » Non, 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 je crois en Dieu, j'ai beaucoup de foi, Dieu va me sauver, etc. Il le monte, il se réfugie dans la chair, et les pompiers reviennent en disant « Monsieur le curé, vous n'êtes pas raisonnable quand même, vous allez vous noyer, ça, c'est pas raisonnable, on va vous emmener. » Non, 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 Dieu va pas venir me sauver. » Et puis le monde, il se réfugie dans son clocher, et puis il finit par être englouti, et les pompiers disent, mais voilà, parti. Et il se retrouve, donc il est noyé, et il se retrouve devant Dieu qui lui dit, Seigneur, j'ai grande foi en toi, et tu ne m'as pas sauvé, et tu ne m'as pas envoyé de secours. Et il dit, mais si, je t'ai envoyé 3 fois les pompiers. Donc il n'a pas, malgré la grande foi qu'on peut avoir, est-ce qu'on écoute bien Dieu? Alors, je crois que c'est ça le problème, c'est difficile hein, quand je me suis un petit peu frité avec mon curé en Bretagne, parce qu'il nous disait ouais, quand on est malade, il faut prier. Mais sauf que quand on est malade, qu'on est mal foutu, qu'on a mal, physiquement, psychiquement, on a du mal. On a un mal de chien à prier. C'est compliqué. Et donc, je disais, on est, en plus, la chimiothérapie entraîne des troubles cognitifs, c'est-à-dire des troubles de la mémoire, des troubles de la compréhension, etc. Et je disais que c'était vraiment, vraiment compliqué. Hein, la prière, quand on est malade, c'est compliqué. Hein, je comprends les gens. Alors, j'ai quelques pistes comme ça qui me sont venues à l'esprit. Alors, les pistes, c'est ne laissons pas les autres souffrir dans la solitude. C'est vraiment la solitude qui. C'est vraiment la maladie qui nous isole. Alors, une autre piste, c'est le sacrement des malades, bien sûr. Moi, je suis toujours étonné à Lourdes, puisque depuis quelques années à Lourdes, pour de troubles. Et je suis très étonné par ces sacrements qu'on donne à tous les malades, qu'on donne à tous ces malades qui viennent et qui sont dans la joie. La troisième piste, là, c'est laissons-nous envahir par l'Esprit Saint, parce que les gens. Et puis, mettons-nous à l'écoute de Jésus. Et je pense que j'avais repris à cette époque-là les actes d'espérance qu'on apprenait au catéchisme. Est-ce qu'on apprend encore l'acte d'espérance?
Pas
Pas
sûr,
sûr. Hein.
mais on va y remédier, on va y remédier.
Alors, je vais vous le dire. Mon Dieu. Comment?
Expérience est arrêtée.
Absolument. Et oui, on est de la même génération. Ouais. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde. Et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, votre monde. Parce que vous me l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Alors, je trouve qu'on devrait remettre ça en place. Et puis la cinquième piste que je disais, je la connais bien, c'est Marie. C'est Marie. Et moi, j'ai été baigné dans mon milieu familial par une grande dévotion à la Sainte Vierge. Et le soir, on récitait une prière de Saint Bernard qu'on a un peu oubliée, mais que
Souvenez-vous.
j'aime bien réciter. Alors je vais vous la lire. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont recours à votre protection, imploré à votre assistance ou réclamé vos suffrages, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, je viens vers vous et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Ça marche pas mal, c'est une autre voie. Marie, elle est intermédiaire. Donc, c'était un petit peu la réflexion suite à ce que tu m'avais demandé. C'est de dire, est-ce que Dieu nous aime malgré tout ce qu'il nous envoie comme maladie, malheur, espoir, fidélité? Et est-ce qu'on écoute bien, et que ta volonté soit faite, et pas la mienne? Voilà ce que je voulais vous dire.
Je crois qu'on peut vraiment t'adresser un grand merci pour ce cadeau que tu viens de nous livrer, parce que ce n'est pas rien que de livrer aussi bien cette expérience et puis surtout de le placer sous le regard de Dieu et avec beaucoup d'humilité. Puis je pense aussi que les pistes aussi par lesquelles tu as conclu peuvent aussi nous interpeller. Je pense que Ton témoignage bien doit résonner chez beaucoup d'entre nous. Et donc, ce que je propose, c'est que nous puissions prendre un temps de silence pour déjà un petit peu digérer ce que nous venons d'entendre. Et ensuite, alors il y a quelques questions qui est dans notre livret, à la page 4. C'est pas la page 4, c'est la page 2. Donc c'est des questions toutes simples, c'est qu'est-ce qui me touche dans ce que j'ai entendu, qu'est-ce qui a résonné, et puis qu'est-ce que je découvre de Dieu à travers le témoignage de Benoît. Donc on prend un petit temps de silence pour accueillir ce qui vient de nous être dit, et je propose que vers moins 20, on puisse avoir un temps d'échange, avec Benoît. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à, exprimer ses réactions, mais aussi ses questions, si on veut quelques éclaircissements, jusqu'entre 40 jusqu'à 55, puisque nous aurons la joie tout à l'heure que des résidents de la maison de retraite nous rejoignent pour la messe. Donc, voilà.